BFM Business présente Good Evening Business. Thomas Asportas.
Bientôt 18h sur BFM Business. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus dans Good Evening Business. Dans l'actualité ce soir, on a les marchés au plus haut. Le CAC a franchi la barre des 8100 points. On a le Bitcoin au plus haut. On a les dividendes au plus haut. Jusqu'où tout cela va-t-il nous mener? Est-ce qu'il y a une nouvelle bulle sur la planète finance? On parle de tout ça, bien évidemment, ce soir dans Good Evening Business. On en parle après la grande interview d'Edwige Chevrillon qui reçoit ce soir à 18h10 Stanislas de Bentzmann, le cofondateur et coprésident de la société digitale Devoteam. Et puis à 18h30, nos experts arrivent et on a encore beaucoup de sujets à voir avec eux ce soir, et notamment ce coup de tonnerre aux États-Unis. C'était il y a quelques heures. La Chambre des représentants vient de voter l'interdiction de TikTok, le réseau social chinois TikTok, aux États-Unis. Et puis on va aussi parler d'IA ce soir avec ce rapport qui vient d'être remis à Emmanuel Macron et qui lui recommande d'investir 15 milliards d'euros par an pour rester dans la course. Voilà, ça nous fait beaucoup de beaux et passionnants sujets à voir ce soir dans Good Evening. On est en direct jusqu'à 20h.
Good Evening Business, le journal.
Et on commence donc évidemment avec ce coup de tonnerre aux États-Unis où la Chambre des représentants vient de voter, c'était il y a quelques heures, l'interdiction du réseau social TikTok, sauf si il coupe complètement les ponts avec la Chine. Sur place pour BFM Business, Antoine Hollard.
Oui, le texte a été adopté à une très large majorité à la Chambre des représentants. Républicains et démocrates ont voté ensemble. Alors ce projet de loi donne un peu moins de 6 mois à TikTok pour couper les ponts avec la Chine et sa maison mère, ByteDance. Faute de quoi, l'application sera interdite aux États-Unis. Les élus américains accusent le réseau social d'espionner les utilisateurs. TikTok capte énormément de données et ces informations pourraient être transmises à Pékin, ce qui pose selon eux un problème de sécurité nationale. Alors attention, le texte n'est pas encore une loi, il doit d'abord passer par le Sénat et là, pour le coup, ça pourrait coincer. Certains élus démocrates notamment sont réticents. C'est vrai qu'à quelques mois de l'élection présidentielle, il y a aussi un énorme enjeu politique. TikTok, c'est 170 millions d'utilisateurs aux États-Unis, application très populaire chez les jeunes, et c'est justement pour aller chercher les voix des jeunes que Joe Biden a récemment ouvert un compte TikTok. Le président américain dit néanmoins qu'il soutient le texte, mais on sent bien que la Maison-Blanche est embarrassé, surtout que Trump, de son côté, se dit opposé à l'interdiction, alors qu'il avait lui-même essayé de bannir le réseau social chinois lorsqu'il était président.
Merci beaucoup Antoine Hollard, et on revient évidemment sur cette petite bombe les Américains qui veulent interdire TikTok tout au long de la soirée sur BFM Business. 18h02, on revient en France et on parle maintenant d'Alstom, où ça bouge visiblement du côté du top management. Bonsoir Mathieu Pechberti.
Bonsoir Thomas.
Ça bouge parce que le futur président du conseil, Philippe Petit-Collin, vient d'être coopté aujourd'hui comme administrateur, et d'après vos informations, Mathieu, l'ancien patron de Safran est déjà très remuant chez Alstom.
Oui, en tout cas, il est très actif, effectivement, comme on l'entend beaucoup dans les couloirs du siège d'Alstom, pardon, et cette transition a commencé. Aujourd'hui, il y a un PDG, Henri Poupard-Lafarge, qui dirige le groupe depuis de nombreuses années, mais le groupe Alstom est confronté à des difficultés financières importantes. Il y a plus de 3,5 milliards de dettes, un plan d'économie de 2 milliards qui est en route, et ce rachat de Bombardier qui date d'il y a maintenant presque 3 ans, qui a du mal à être intégré, et le groupe brûle toujours du cash et donc il y a des difficultés financières. Alors l'actuel PDG va devenir directeur général au mois de juillet, ce qui est quand même assez rare dans ce genre de groupe industriel, et va être coiffé quelque part par Philippe Petit-Collin, qui est connu pour avoir dirigé le groupe Safran pendant de nombreuses années et qui est connu effectivement pour être un dirigeant très impliqué dans l'opérationnel. Et on entend effectivement beaucoup dire qu'il est déjà présent chez Alstom depuis plusieurs semaines, qu'il voit beaucoup de monde et qu'il s'implique déjà, et en plus il retrouvera chez Alstom le directeur financier qui était aussi celui de Safran à l'époque, donc une forme de duo, qu'on appelle la team Safran chez Alstom, et qui laisse penser que l'avenir en tout cas de l'actuel PDG Henri Poupard-Lafarge semble incertain. On attend les résultats annuels d'Alstom début mai qui seront très importants pour voir un petit peu quelles seront les mesures stratégiques qui seront mises en place par cette nouvelle gouvernance.
Ça rappelle ce qui s'est passé chez Safran, quand Philippe Petit-Collin avait dû intégrer Zodiac Aerospace.
Exactement.
C'est un petit peu le même job, là.
Exactement. Sale boulot.
Le sale boulot, on va dire ça comme ça. Merci beaucoup, Mathieu Pechberti. On poursuit maintenant avec la très bonne année qui vient de s'écouler pour MBDA, guerre en Ukraine oblige. Le fabricant de missiles vient d'annoncer aujourd'hui un chiffre d'affaires à plus de 4 milliards d'euros, un carnet de commandes à 28 milliards, et surtout, MBDA a mis des bouchées doubles l'année dernière pour se mettre en mode économie de guerre. Jean-Baptiste Huette.
Après une sévère douche froide en 2023, MBDA rentre dans le rang. Critiqué pour son inertie, le groupe passe progressivement en mode économie de guerre. Plus agile et plus productif. Nous avons parfaitement compris l'impatience de nos clients, explique Éric Béranger, le directeur général. Le groupe investit donc dans ses capacités de production, 2,4 milliards d'euros dans les 5 prochaines années, en France avec une nouvelle ligne d'assemblage, au Royaume-Uni, en Italie, une nouvelle usine en Allemagne. MBDA travaille aussi sur ses stocks. Pour soutenir l'augmentation des cadences, il faut des réserves. Titane, aciers spéciaux, composants électroniques. Résultat, s'il fallait 42 mois pour livrer un missile Aster en 2022, l'objectif est de passer sous les 18 mois en 2026 et de multiplier par 3 environ la vitesse de production des autres missiles. Pour soutenir cet effort, 2600 recrutements sont prévus cette année. MBDA compte également instiller une dose d'intelligence artificielle au cœur des usines pour gagner encore en compétitivité. Éric Béranger reste toutefois discret sur les progrès déjà accomplis. Un athlète qui va aux Jeux Olympiques, explique-t-il, ne devient pas d'un seul coup un champion. Il a besoin de plusieurs années d'entraînement.
Jean-Baptiste Huette, et puis pour finir, un mot de ce qui se passe dans la grande distribution et de cette fameuse loi Egalim, la loi Egalim qui est censée garantir le revenu de nos producteurs et des agriculteurs. Un rapport parlementaire a été remis ce matin sur la mise en œuvre de la loi Egalim 3, puisqu'on en est déjà à la troisième mouture de cette loi. Et pour les auteurs du rapport, Egalim n'est clairement pas assez appliqué, notamment à cause de ces fameuses centrales d'achat. On écoute la députée Aurélie Trouvé qui a remis le rapport ce matin avec Frédéric Descrozaille.
Il y a déjà Leclerc, Super U, Carrefour qui passent par ces centrales d'achat européennes. Près de la moitié de leur volume de vente passe maintenant par ces centrales d'achat européennes. Et en plus, Intermarché annonce qu'il va faire pareil. Et donc tout le monde est en train de s'engouffrer là-dedans. Il y a aussi des moyens de contrôle qui ne sont pas suffisants. Il y a un gouvernement qui n'applique pas suffisamment la loi elle-même. Et puis ensuite, et dernière chose, on a un vrai problème vis-à-vis du droit européen. Et tant que la France ne tapera pas suffisamment du poing sur la table pour faire vraiment appliquer les règles françaises et la loi française, eh bien nous continuerons à avoir cette forme d'évasion juridique de la part de multinationales qui profitent du droit européen plutôt que du droit français.
L'angle mort des centrales d'achat sera peut-être un point de la loi Egalim 4, puisqu'une quatrième est déjà en préparation. Allez, 18h07, on va sur les marchés.
Votre rendez-vous avec AG2R La Mondiale. Épargne, retraite, santé, prévoyance. Avec AG2R La Mondiale, prendre la main sur demain.
18h07, on va au Euronext retrouver Clémence Tanguy. Bonsoir Clémence. Plus rien, visiblement, ne semble arrêter le CAC, Clémence.
Plus rien, absolument. Le CAC qui a quand même battu beaucoup de records. Hein. Plus de records, c'est l'expression qui caractérise le mieux cette séance. Hein. Alors le CAC a battu des records en séance. Hein. Il allait largement au-delà des 8150 points. Et en clôture, 8137,58 points, plus 0,62%. Et puis record pour plusieurs titres qui composent l'indice aujourd'hui. Alors il y a notamment Air Liquide à 194,80 €. Mais aussi Hermès, 2357,50 €, ou encore Airbus par exemple à 159,28 €. Alors des records, il y en a sur le CAC, mais il y en a aussi ailleurs en Europe, notamment sur le DAX qui a dépassé les 18 000 points en séance et a clôturé à 17 961 points en très léger repli de moins 0,02%. Record aussi sur l'Eurostock 50 qui a dépassé les 5 000 points et qui les a sauvegardés de peu à la clôture avec 5 000,55 points, légère progression de 0,35%. Et puis des records, il y en a eu aussi sur d'autres marchés, le marché des cryptos notamment avec le Bitcoin qui a dépassé les 73 000 $ aujourd'hui, toujours au-dessus des 73 000 $ actuellement. Et pour le reste, eh ben, c'est pas mal non plus. Hein. L'or reste sur des plus hauts à 2179 $ l'once. Les indices US aussi hein, restent vraiment tout proches de leur sommet, même s'ils reprennent un peu leur souffle après les records d'hier. On est à moins 0,30% sur le Nasdaq, 16 218 points. Et puis 0,46% pour le Dow Jones, 39 188 points. Légère progression aussi pour le S&P 500, quasi flat, 0,05% de hausse à 5177 points.
Merci beaucoup Clémence Tanguy. Effectivement, plus de records sur les marchés en Europe et aux États-Unis. 18h09, on marque une pause et dans un instant, Edwige Chevrillon reçoit Stanislas de Bensman, co-président, co-fondateur de Devoteam, dans la grande interview. A tout de suite.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. Je reçois ce soir quelqu'un qui connaît très bien tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. Ça tombe bien, un rapport vient d'être remis au président Macron. Bonsoir, Stanislas de Bentzmann.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondateur et coprésident de Devoteam, entreprise qu'on connaît bien, entreprise qui était cotée et vous avez décidé il y a maintenant un peu plus d'un an de sortir de la cote. Vous nous direz tout à l'heure pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'entreprises qui se posent cette question de savoir s'il faut rester coté ou pas. Un point, puisque vous venez de publier votre Tech Radar, c'est un dossier, un petit livret que vous conseillez, que vous donnez aux entreprises, à vos entreprises clientes, pour savoir les technologies qui vont secouer les prochains mois, voire les prochaines années. Évidemment, vous parlez d'intelligence artificielle. Un mot d'abord, parce que votre nom est parfois, souvent, cité dans le dossier Atos. On se dit, tiens, bah puisque justement c'est une entreprise en conseil en stratégie dans le digital, il y a peut-être des parties qui pourraient intéresser Devoteam, vous intéresser. On va rappeler Devoteam, vous l'avez co-créé avec votre frère, Geoffroy de Bentzmann. Vous êtes français, ça ferait un beau socle, notamment pour tout ce qui concerne les supercalculateurs. Alors, est-ce que vous intéressez ou pas?
Alors, Atos, c'est un sujet compliqué. Effectivement, il y a un sujet de souveraineté puisque il y a les supercalculateurs, il y a beaucoup de sécurité avec des équipes de grande qualité. Maintenant, c'est aussi un sujet compliqué parce que Atos a accumulé au cours des dernières années pas mal d'erreurs stratégiques en allant dépenser beaucoup d'argent, faisant des acquisitions dans ce qu'on appelle le management des infrastructures. Et ça a été complètement bouleversé par le cloud. Donc Atos s'est un peu enfermé dans une mauvaise stratégie. Aujourd'hui, en sortir, c'est très compliqué. Donc le sujet en soi, le sujet Atos en soi est compliqué. Maintenant, nous, Devoteam, effectivement, vous l'avez dit, on est sorti de la bourse. Maintenant, on a une vision long terme liée au fait d'être privé. Donc, on peut regarder à stabiliser des éléments très structurants pour la technologie française. On pourra regarder le moment venu. On a déjà initié des conversations. Mais pour le moment, disons que le sujet Atos reste très instable. On voit les grandes difficultés que peut avoir Atos pour délivrer les projets, etc. Donc voilà, je suis pas aux avant-postes de la reprise Atos, non.
Non, ce qu'il y a, c'est que vous n'avez pas envie non plus, parce qu'il y aura forcément des restructurations assez virulentes, violentes, et vous n'avez pas envie de les faire. Donc vous préférez soit qu'elles soient faites avant, soit de reprendre certaines parties où la souveraineté française peut être mise à mal. Les supercalculateurs, tout ce qui concerne la cybersécurité, parce que là aussi, vous intervenez auprès des entreprises sur la cybersécurité, on va y revenir.
Oui, absolument. C'est un sujet sur lequel on est très en pointe. Hein. C'est un sujet qui, de notre point de vue, est essentiel à la réussite de la transformation digitale des entreprises. Donc, dans le nouveau monde qui s'ouvre aux entreprises ou qui accélère encore, la cybersécurité est et sera de plus en plus un sujet stratégique. Donc, effectivement, c'est quelque chose qu'on a beaucoup développé en interne.
Et vous regardez ?
Et on regarde.
Chez Atos, le dossier cybersécurité.
Absolument.
Oui. D'accord. Vous avez les moyens parce que vous êtes sorti de la bourse, donc vous êtes là avec votre frère. Vous avez KKR, hein, le puissant fonds américain, même si on parle de souveraineté nationale, qui est derrière vous. Vous auriez les moyens de reprendre les supercalculateurs et, je ne sais pas, la cybersécurité. À supposer, voilà, pour le coup, il y a d'autres candidats, hein, ça on le sait.
Oui, voilà. On ne va pas se mettre dans la course, sauf si finalement le Airbus ne reprend pas, ça rebattra les cartes. Mais aujourd'hui, on ne s'est pas mis dans la liste des candidats parce que c'était pas la priorité pour nous. Hein. On a plus d'un millier de collaborateurs dans la cyber et on considère qu'on a les moyens d'accompagner nos clients de façon très efficace. Donc on n'a pas la nécessité de reprendre des équipes. Encore une fois, je le dis, quand vous êtes comme ça dans une situation difficile, il y a des restructurations à faire, il y a beaucoup de choses qui sont pas forcément le meilleur socle pour accélérer la croissance. Nous, ce qu'on veut, c'est faire la croissance. Ouais. Là, voilà. Alors, on aurait les moyens, absolument, parce que, comme vous l'avez noté, Godefroy et moi, nous pilotons, nous avons la majorité des voix
Au conseil.
Voilà, au conseil des Dévotim. Mais on a malgré tout un associé très puissant qui peut nous amener à prendre des décisions d'investissement importantes.
Oui, d'accord. Donc vous auriez les reins suffisamment solides. En un mot, Dévotim, hein, c'est 11 000 collaborateurs, c'est un peu plus d'un milliard. 1 milliard 130 en 2023, c'est 1 milliard combien ?
1 milliard 130 millions. 130, oui. Voilà, d'accord. Hein, exactement. Donc,
et vous êtes 9% de croissance et vous êtes dans 18 pays, je crois. Oui. Un peu réparti de par le monde.
Voilà, et on a fait effectivement une croissance organique en 2023 de 9%, ce qui fait une des meilleures perfs du marché. Et ça, c'est effectivement, et en revenant à Atos, ça fait. Vous ne pouvez pas espérer faire des croissances élevées en faisant trop d'écart par rapport à votre plan de marche. Et c'est pour ça qu'on regarde, mais en même temps, on sait qu'on veut maintenir des croissances organiques élevées. C'est la façon dont Dévotim aide le plus ses clients. C'est en grandissant de façon organique ou en faisant des acquisitions ciblées. Et donc, c'est quand même notre modèle. C'est un modèle qui marche, enfin, qui se développe très bien.
Alors, vous avez publié votre Tech Radar. Après, on reviendra sur ce rapport qui vient d'être publié sur l'intelligence artificielle. Vous me direz comment vous le jugez, s'il est suffisant. Donc, Tech Radar, c'est une espèce de guide pour toutes les nouvelles technologies. Je crois que c'est la troisième édition de ce guide que vous publiez. Bon, en tête de liste, intelligence artificielle, non ? C'est ça ?
Bien sûr.
Ça change tout.
Oui, ça change tout.
Pour les entreprises que vous conseillez.
C'est-à-dire, l'intelligence artificielle est une technologie qui s'est développée déjà depuis plusieurs décennies et qui apparaissait dans les entreprises petit à petit, dans les centres de recherche. Donc, c'était quelque chose qui était connu et qui était déjà de façon continue en développement. C'est l'IA générative, celle qui s'interface avec l'humain, avec de l'image, avec de la voix, avec les codes humains, qui a permis une accélération exponentielle. Hein. On a eu 100 millions d'utilisateurs en 2 mois. On n'avait jamais vu encore de nouvelles technologies se déployer aussi vite. Et depuis, ça a encore doublé. Donc, ça s'impose à nous. Ça va être un élément fondamental de la transformation des entreprises avec des potentiels gains de productivité gigantesques, ce dont on a besoin. Hein, c'est pour ça que les gens qui s'inquiètent, ils ont tout à fait raison. C'est tellement puissant qu'il faut qu'on fasse très attention au déploiement. Il n'empêche que c'est un outil qui arrive au moment où on a le plus besoin de gains de productivité. Les économistes nous en parlent tout le temps. On a d'énormes enjeux en face de nous. La transition écologique, la baisse, le vieillissement de la population, les augmentations de coûts de santé, etc. liés. Donc tout ça nous amène à avoir le besoin d'outils nouveaux. Et c'est là où l'IA va nous rendre grand service.
Oui, parce qu'en plus, si on en croit le rapport qui vient d'être rendu par l'économiste Philippe Aglon, qu'on connaît bien ici, et la présidente de l'École normale supérieure, Anne Bouvreau, c'est que ça peut générer en fait énormément de croissance. Près d'1%, en tous les cas, c'est le chiffrage qu'il donne. Oui. 1% du PIB en France, c'est énorme. Oui. Vous y croyez ? C'est ce que vous observez chez vos clients ?
Alors, nous, ce qu'on observe, c'est que tous les clients s'y mettent. Mais il faut faire attention, qu'il ne faut pas surestimer l'IA à court terme ni sous-estimer l'IA à long terme. C'est-à-dire que ça va mettre un petit peu de temps à produire des effets importants. Mm-hmm. Donc on parle plutôt de 3, 4, 5 ans pour vraiment qu'on sente l'effet dans l'économie des gains de productivité. Mais par contre, ça va aller de façon exponentielle, c'est-à-dire que au début, c'est des petits projets qui viennent, on apprend à utiliser l'IA, les cas d'usage sont pour le moment testés pour voir si ça marche. Dans l'assurance, ça fait longtemps qu'on dit on est en train de faire des nouveaux cas d'usage, et puis petit à petit ça va se mettre en œuvre à grande échelle. Mais voilà, il faudra quelques années pour voir ces gains de productivité massifs dont parle monsieur Aglon.
Oui. Est-ce que c'est des plan de productivité massif, vous pensez ? Est-ce que ça veut dire donc des licenciements massifs ? C'est un peu, il y a un côté diabolisation de l'intelligence artificielle, sans doute à juste titre, dans certaines fonctions.
Alors, tous les progrès technologiques ont amené cette peur et ont transformer les emplois. Donc, vous avez tout à fait raison, il y a plein d'emplois qui ont disparu quand l'électricité est arrivée, quand les moteurs à explosion sont arrivés, l'informatique, le digital, et donc tout ça s'accélère, et c'est ça qu'il faut gérer, c'est l'accélération des mutations. Maintenant, ce qu'on constate déjà dans les entreprises qui sont les plus en pointe de l'IA, c'est qu'ils augmentent les effectifs parce que ça amène de la croissance. Mmh. Donc, moi, je ne crois pas qu'il faut avoir peur de l'IA pour l'emploi. Je crois plutôt que l'IA doit être maîtrisée en termes de puissance de transformation et de mauvaise utilisation. Mais la mauvaise utilisation, elle est liée aussi à la puissance de bonne utilisation. Voilà. Non, pour l'emploi, je pense qu'au contraire, il faut se saisir de l'IA, les entreprises, et elles vont se développer plus vite que les autres, et elles vont embaucher, et elles vont transformer les emplois, bien sûr.
Je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire, enfin, en tous les cas, les préconisations de Philippe Aguillon et d'Anne Bonnevraud avec ce plan d'action pour la France. Est-ce que là, pour vous, la révolution, elle est partout ? Est-ce que la France est en retard ou pas ? Est-ce qu'il faut se dépêcher un peu ? C'est un peu le constat qu'ils font. Hein.
Oui. C'est-à-dire que, en fait, vous savez, les innovateurs, c'est ceux qui utilisent la dernière technologie. On est, c'est toujours quand on est sur le je dirais sur la rupture que on sait produire la suivante. Donc clairement, le système de financement américain de la technologie a pris une avance majeure grâce au fonds d'investissement, grâce à l'argent qui a été mis, avec tout le système qui va avec, de chercheurs, de financement, de compétences pour gérer ça. Et donc ils ont imposé à la planète une technologie très forte. Ouais. Et l'Europe est restée pendant des décennies à la porte de ça, parce qu'elle ne voyait pas forcément l'intérêt d'investir là-dedans, et elle n'avait pas forcément le savoir-faire. Donc c'est resté marginal, la technologie en Europe. Aujourd'hui, les choses ont changé, on s'est mis à copier le système américain, et on le fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que par le passé. Donc on peut penser que sur un certain nombre d'éléments de la technologie, on aura nos success stories. Après, aujourd'hui, le cœur de l'investissement dans la tech, c'est les hyperscalers, c'est-à-dire Microsoft, oui. Google, AWS. Ils en ont des moyens gigantesques. Voilà. On a bien vu que OpenAI était porté par toute la tech américaine, et puis Microsoft, voilà, finalement,
Manch, mais c'est pas sûr que ça soit suffisant, même voilà. Si c'est une formidable, incroyable aventure.
Non, mais il faut pas qu'on s'arrête là, il faut qu'on s'arrête jamais, il faut qu'on et de toute façon, quoi qu'il arrive, même si le retard est difficile à rattraper, il faut pas qu'il s'accentue. Il faut que l'Europe puisse se saisir de ces sujets. Alors moi, à titre personnel, comme libéral, c'est pas forcément les plans étatiques que je trouve forcément.
Mais sinon, ça marche pas.
Mais non, mais c'est les entreprises qui doivent investir.
Oui, mais enfin, nous, on n'a pas de géants du net. On n'a pas des grandes fortunes du net. Vous savez, on n'a pas Eric Schmidt, ex de Google, qui peut mettre des millions, voire des milliards. Vous voyez,
Mais si, bien sûr que si. Quand vous accumulez la puissance de feu des grands acteurs, ils ont la capacité, peut-être pas aussi importante, et le savoir-faire des hyperscalers. Mais imaginez que c'est l'État. C'est l'État qui a drivé Atos, hein. Je ne veux pas envoyer de mauvais. Mais c'est vraiment le management d'Atos, ça a été un management étatique. On voit où ça a mené. Donc que on stimule.
Et stock, oui.
Voilà. que on stimule les la recherche fondamentale. L'État, c'est son job. Que on ait des outils pour aider les entreprises à investir dans ces domaines-là. Que on soit un stimulant. Okay, mais... c'est vrai. Mais qu'on veuille se substituer, ça c'est
Philippe
toujours
Aguillon, il dit qu'il faut 15 milliards par an. Est-ce que déjà, on a changé d'échelle par rapport à tous les chiffres qu'on entend, un programme à 400 millions, là il dit qu'il faut 15 milliards. Pas sûr qu'il sera écouté ou suivi. Hein. Vous paraît à l'échelle de ce qu'il faut faire ?
Mais je pense que vous avez tout à fait raison, il faut changer d'échelle et investir massivement, mais il faut mieux faire investir et aider les entreprises à investir plutôt que de vouloir de façon étatique dans un plan. Voilà, je rappelle que le plan calcul, qui était le plan informatique de la France, nous a amené à Atos, qui aujourd'hui est une catastrophe. Donc, je crois que dans la tech, c'est l'innovation au plus près des terrains, du terrain et des labos, bien sûr, qui doivent être, je dirais, stimulés plutôt que d'avoir des plans étatiques. Moi, je le répète là, je ne crois pas aux plans étatiques.
Alors, on va parler, parce que justement, on peut déjà le voir à l'écran, sur un IA Act européen, puisque vous parlez de Thierry Breton, il est commissaire européen maintenant. Est-ce que... On n'a pas beaucoup de temps, on ne peut pas tout refaire, puis en plus c'est vraiment que le début. Est-ce que ça vous paraît aller dans le bon sens? Est-ce que vous pensez que, comme beaucoup d'acteurs, trop de réglementation en fait va tuer l'innovation?
Effectivement, je crois qu'il faut de l'innovation, il faut de la réglementation. L'IA est un outil d'une puissance exceptionnelle qu'il faut que nous gérions. Donc c'est tout à fait normal et c'est tout à fait bien que l'Europe se saisisse des sujets et qu'il observe le risque d'innovation, les risques qu'on prend et donc on doit produire une législation. C'est une bonne chose d'avoir un cadre. Après, évidemment, le risque que l'on prend, c'est que finalement les innovateurs partent sur des terrains, les États-Unis par exemple, où ils vont trouver plutôt plus de financement, même si c'est un petit peu moins vrai maintenant, et un cadre plus souple. Donc c'est là où ça serait la double peine, c'est-à-dire que non seulement on ne va pas rattraper notre retard, mais là on va en prendre plus si on n'est pas capable d'innover. Donc l'IA Act qui a été soumis au Parlement européen aujourd'hui, qui est un cadre, je dirais, qui est un cadre souple pour le moment, il faut vraiment qu'il soit adapté au fur et à mesure où on développe l'IA dans la vie quotidienne, dans les entreprises. Il va falloir l'adapter pour surtout pas que ça soit finalement une logique de contrôle et de bureaucratie qui le gère. On le sait, c'est un risque. Donc, encore une fois, l'IA Act doit être souple. Il va y avoir des mises en œuvre dans les mois qui viennent et il faut absolument que la communauté scientifique soit très engagée dans la législation pour éviter justement ce que vous dites, le risque que vous soulignez.
En un mot, vous reviendrez nous voir sur les cyberattaques, mais c'est vrai que là, on vient d'apprendre que France Travail avait été... il y avait 43 millions de personnes qui étaient potentiellement concernées avec leurs données. Vous dites quoi en un mot à vos entreprises là, sur les cyberattaques? Comment se prémunir?
Alors, tout le monde va être attaqué ou tout le monde est attaqué potentiellement très rapidement. Donc en fait, il ne faut pas penser que c'est pour quelqu'un d'autre. Les chiffres sont en explosion. Ça devient une industrie. Vous avez des entreprises qui s'installent dans des zones grises pour faire des attaques leur business model. Donc ça, c'est il faut savoir que avec du management, avec des juniors, avec de la formation, de l'onboarding, voilà, il y a des entreprises qui sont dans une logique économique de rançonner, d'attaquer. Alors elles peuvent être financées par des gouvernements ou c'est juste purement financier. Et donc il faut savoir que c'est un élément massif. Il faut bien comprendre que dans la digitalisation, vous avez des surfaces d'attaque qui sont en train d'augmenter à toute vitesse. Et donc, le message principal, c'est il faut se saisir du sujet au plus haut niveau dans l'entreprise. Vous avez des méthodes, vous avez de la technologie, vous avez des partenaires, hein, comme Néodim. Et ça ne peut pas être laissé à un sujet secondaire, avec des budgets secondaires, dans un petit coin de l'entreprise.
Oui. En un mot... Pourquoi Devotim a quitté la bourse après 22 ans de cotation?
On a décidé, Godefroy et moi, de reprendre la majorité du capital. D'accord. On l'a fait avec un partenaire en sortant de la bourse. Voilà.
Merci beaucoup. Très intéressant. Merci. On voit qu'il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Il y a beaucoup de changements. Merci, Stanislas de Betzman, d'avoir été avec nous. Donc, cofondateur avec son frère de Devotim. Tout de suite, on retrouve Thomas Asportas.
Merci.
18h30 sur BFM Business, les cyberattaques, on en parlait à l'instant, se poursuivent en France contre l'administration. Et cette fois-ci, c'est France Travail, effectivement, le successeur de Pôle emploi, qui annonce avoir été la cible de hackers avec 43 millions de personnes potentiellement concernées par la cyberattaque, c'est-à-dire toutes les personnes inscrites à Pôle emploi depuis 20 ans. France Travail ajoute que l'attaque, a priori, n'a rien à voir avec celles qui ont frappé plusieurs ministères dimanche soir. Le ministre des Comptes publics, Thomas Cazenave, annonce un montant record de redressement contre le travail au noir avec 1,2 milliard d'euros récupérés en 2023 grâce à la lutte contre le travail dissimulé. C'est 50% de plus qu'en 2022 et le gouvernement vise un objectif de 5 milliards d'ici 2027. Nissan envisage un partenariat avec Honda dans les véhicules électriques, c'est ce que révèle la chaîne japonaise TV Tokyo. L'accord pourrait inclure des achats mais aussi des développements conjoints. Une information qui intervient alors que Nissan a réorganisé son alliance avec Renault il y a quelques mois. Et puis le directeur de Sciences Po Paris, Mathias Vichra, a annoncé sa démission après avoir été renvoyé en correctionnel dans une affaire de violence conjugale. Une administration provisoire va être nommée dans les prochains jours. Mathias Vichra avait pris la direction de Sciences Po Paris en 2021. 18h32 sur BFM Business, on marque une pause. Et on se retrouve dans un instant avec Audrey Tcherkov et nos experts. A tout de suite.
Good evening business. Actu, experts, débat, interview des grands acteurs de l'économie.
18h35, bienvenue dans les experts du soir. Emmanuel Lechypre, bonsoir, bienvenue sur ce plateau.
Bonsoir.
Et Edwige Chevrillon, vous êtes resté avec nous puisque nous allons commenter tous ensemble ces records historiques de la planète finance. Alors le CAC 40, ça y est, il a dépassé les 8100 points, c'est pas mal. Et les autres places boursières, des records aussi. Et puis enfin, les dividendes dans le monde ont atteint, tenez-vous bien, 1660 milliards de dollars l'an dernier. Emmanuel Lechypre, on commence par vous, plus rien ne vous surprend, mais enfin tout de même, comment est-ce qu'on explique cette euphorie sur les marchés ?
L'euphorie sur le marché, elle a plusieurs explications. D'abord, les résultats des entreprises sont quand même en ligne, finalement, avec des belles performances boursières. On a aussi, finalement, les perspectives qui sont celles de baisse des taux d'intérêt et donc un environnement financier qui est quand même plutôt favorable. Moi, je vais vous dire, ce qui m'étonne le plus, finalement, dans cette configuration aujourd'hui, c'est pas tellement qu'on ait des records de CAC 40, parce que si vous ajoutez à tout ce qu'on a dit, malgré la hausse des taux d'intérêt, la très importante abondance, voire la surabondance de liquidités qui est toujours finalement sur les marchés, c'est pas si étonnant que ça. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on a une configuration qui est quand même assez rare, c'est que vous avez des sommets sur les bourses, vous avez des sommets sur l'or, vous avez des sommets sur les crypto-monnaies, et alors que d'habitude, vous savez très bien que finalement l'or c'est plutôt le placement des jours mauvais, valeur refuge, etc. Et là on a à peu près tout en même temps. Et en fait ces moments assez particuliers dans l'histoire boursière où quand vous avez énormément d'argent, énormément d'incertitudes, vous avez un peu ce qu'on appelle le buy everything, c'est-à-dire en gros, vous avez de l'argent, vous achetez tout. Il y a en plus
Il y a quelque chose qui va éclater.
Parce qu'il y a en plus des fondamentaux.
Tout, ce n'est pas bon.
Par exemple, sur l'or, vous avez aussi des fondamentaux qui poussent les cours à la hausse, intrinsèques pour le coup à ce qu'est le métal jaune. C'est-à-dire qu'il y a de la demande, par exemple, pour les banques centrales ont une forte demande de d'or. Il y a une demande physique, etc. Les crypto monnaie, on va pas revenir sur les raisons de la hausse, mais voilà, et donc on a cette configuration. Moi, c'est ça qui m'étonne le plus, c'est cette configuration.
Je suis surprise quand même que vous ne soyez pas surpris, mais alors peut-être qu'Edwige, vous l'êtes, par cette déconnexion en fait entre la santé de fer des fleurons français qui s'illustre avec ses dividendes records, ses performances historiques.
Mais et parce qu'ils sont faits à l'étranger.
Oui, voilà. Et l'économie, évidemment, domestique, qui se porte mal, enfin, en tout cas, d'après les indicateurs, notamment de l'INSEE.
Moi, je répondrais non pas sur l'or et sur le bitcoin, puisque ça, c'est autre chose. Mais sur les entreprises, ça montre une chose, c'est que quand même, elles ont restauré leur marge d'une manière absolument incroyable, sidérante. Ouais. On en parlait l'autre jour avec Jacques Cressel, vous savez, qui est sur le délégué général de la FCD, de la grande distribution de l'e-commerce. Il disait, nous, on fait 2, 6, 3% de marge, mais regardez les Nestlé, les Coca, les Mars, ils font 24, 30, 36% de marge. Et c'est un peu tout le problème. C'est-à-dire qu'elles se sont dit, il faut qu'on les reconstitue après la crise de la Covid. On était dans un état pitoyable. Donc maintenant, on restaure nos marges, c'est normal. Mais en fait, du coup, ça a eu effectivement un effet immédiat sur. Ça a boosté complètement les dividendes et la distribution de dividendes, une manière de récompenser les actionnaires qui ont été qui ont été à mauvaise
enseigne.
Il y a une mauvaise enseigne le temps de la crise de la Covid, quoi.
Ce qui interroge quand même, c'est le quelque part que les marchés continuent à grimper alors que les résultats ont été très bons, mais c'est derrière nous, et que les baisses de taux, OK, on les voit arriver, mais c'est pas pour demain.
Non,
et pourtant
2024,
là ça devrait temporiser les marchés.
Oui, mais 2024 ça devrait temporiser les marchés, vous avez raison, parce qu'on voit bien que
Ça temporise pas tous les jours là en bas de nouveaux records.
Oui.
C'est ça qui interroge quelque part, qu'on a du mal à expliquer.
En même temps, regardez le scénario économique qu'on nous prédisait il y a encore 6 mois, on est très loin. du scénario qu'on nous prédisait il y a 6 mois. Tout le monde nous disait les États-Unis vont rentrer en récession.
La France aussi.
La France aussi, etc. Et en fait, vous voyez que on va éviter quand même très largement.
Alors en 2023, en 2024, c'est
la récession. Oui, mais enfin, ça va se jouer à des pouillèmes. C'est-à-dire qu'en gros, entre moins 0,1 de croissance, 0 et plus 0,1, franchement, il y a pas, c'est pas ça une vraie récession. Donc finalement, l'environnement économique, il est pas si mauvais que ça. Et puis je suis désolé, si vous regardez effectivement, si vous sortez, là où je suis d'accord avec Thomas, c'est que. Mais ça, c'est inévitable. C'est-à-dire que quand vous avez beaucoup de liquidités et des secteurs qui paraissent susciter des promesses folles comme l'intelligence artificielle, oui, sur toutes les valeurs de l'intelligence artificielle, vous avez sans doute des excès. Mais la réalité, c'est que quand vous regardez les ratios, ne serait-ce que les ratios cours-bénéfices, etc., le CAC 40, on peut pas dire qu'il est très très cher.
Ouais, ouais.
Vous êtes à 13,5, 14. C'est pas des ratios qui sont absolument délirants. Donc oui, il y a quand même cette bulle sur l'intelligence artificielle, c'est incontestable. Encore une fois, rappelez-vous, et puis, si vous voulez, on va juste rappeler un fait historique, c'est qu'en réalité, les crises boursières, c'est plus très grave. Ça n'a plus d'impact. Ça ne mord plus sur la croissance. Le vrai sujet, c'est si on combine, et c'est ça les seules crises les plus graves, c'est quand vous combinez des crises boursières avec des crises immobilières. Et là, la question, c'est
crise immobilière, on l'a.
Et ben, ce scénario de crise boursière et de crise immobilière qui provoquerait des problématiques de crédit. Ouais. Ce serait vraiment la catastrophe, ouais. Parce que ça, c'est vraiment les crises les pires qui mettent 5 ans à se digérer, alors que depuis 40 ans, les crises boursières, franchement, pas très grave.
Et là, on parle des marchés, les dividendes, alors là aussi, des records mondiaux, records en France. On se félicite ou on se dit que c'est dommage et que c'est de l'argent qui devrait aller ailleurs?
Après, c'est un problème politique derrière, parce que quand vous avez 133 milliards. Pour les actionnaires, c'est sûr que certains commencent à dire c'est plus gérable, c'est plus tenable, donc il faut une taxe sur les dividendes, donc il faut peut-être. On n'entend pas trop cette musique, mais un petit peu, ça commence à monter. Il faut créer des fonds de pension à la française. On en parle depuis très très longtemps.
C'est dans le rapport interministériel sur
l'intelligence artificielle. Oui, parce qu'on a trouvé des financements. Donc, la petite musique, elle commence heureusement à bouger un peu, parce que c'est une des solutions. Parce que si les salariés, on voit bien que les salariés, pour qu'ils bénéficient, il faut qu'ils soient salariés des grandes entreprises qui ont des plans salariés, genre Société Générale, Total ou autre. Là, à ce moment-là, ils
bénéficient. Oui, et puis en réalité,
sinon, c'est plutôt les fonds de pension américains.
Absolument. Quand on regarde dans le détail à qui appartient le CAC 40, les actionnaires individuels, c'est quoi? C'est moins de 6%.
Ah oui, et puis la moitié appartient au fonds anglo-saxon.
Voilà, exactement. Donc ça veut dire que l'argent qui est distribué n'est pas distribué en France et n'est pas réinvesti en France non plus.
Bah, si vous regardez l'actionnariat de Total, par exemple, à part les salariés qui sont quasiment les plus gros actionnaires, tout le reste, ce sont des fonds américains.
Ouais.
Comme dans beaucoup d'entreprises françaises du CAC, sont les premiers actionnaires, et de plus en plus.
Ouais. On a quand même eu la démonstration l'an dernier, à propos de ce que vous dites, que les grands groupes ont fait les deux. C'est-à-dire qu'ils ont à la fois versé des dividendes records, en même temps, ils ont aussi joué le jeu du pouvoir d'achat, puisqu'ils ont augmenté les salaires autant que l'inflation en moyenne, et ils ont investi autant que dividendes plus rachat d'actions. Ça fait à peu près 100 milliards.
Ouais.
Donc, on a marché sur les deux jambes. Enfin, en tout cas, c'est la démonstration qu'on a eu l'an dernier.
Un rachat d'actions, c'est favorable aux actionnaires. Et donc, le rachat d'actions, c'est quand même de l'argent qui
se. Oui, non, mais donc, dividende plus rachat d'actions, ça fait. Non, mais investissement hors rachat d'actions. Oui. Investissement de fonctionnement et d'avenir. On est dans les mêmes montants, 95 milliards à peu près.
Alors, après, c'est toujours le débat théorique. Qui est de dire.
Dividende capte tout l'argent, quoi.
Parce que le reproche que font finalement ceux qui trouvent que les rachats d'actions, c'est une façon bête d'utiliser l'argent ou parce qu'ils trouvent que les dividendes c'est trop élevé et que ça signifie qu'on n'investit pas assez. La réalité, c'est que vous avez beaucoup de boîtes qui investissent quand même beaucoup, dans lesquelles on considère que c'est difficile d'investir plus et que la meilleure façon d'utiliser l'argent, c'est quand même de le distribuer pour que cet argent aille s'investir ailleurs dans des projets jugés plus rentables
et plus
prometteurs.
Pour reprendre votre exemple préféré de Total, Emmanuel Le Chypre, quand on regarde justement l'exemple de Total, qui dit il y a quelques mois on n'a pas de projet, on ne sait pas trop dans quoi investir, etc. Donc on va faire un maximum de rachats d'actions et on va et on va distribuer un maximum de dividendes. Excusez-moi, ça pose question, parce que enfin, la transition écologique est censée
créer
d'énormes investissements, d'énormes projets.
Oui, mais sauf qu'il y a un moment où vous ne pouvez pas balancer non plus les milliards dans tout et n'importe quoi comme projet d'investissement. C'est-à-dire que si les projets d'investissement, vous ne les avez pas...
Si Total n'est pas à la pointe des projets dans lesquels il faut investir, il y a un problème.
Mais ils le sont déjà, mais il y a un moment où vous ne pouvez pas aller plus vite que la musique. Je sais que vous voudriez que tout change du jour au lendemain et qu'on investisse massivement et que tout change et qu'on arrête le pétrole, etc. La réalité, c'est que tout ça n'est pas possible. C'est qu'il y a encore une fois une vitesse, il y a une inertie de tous ces projets qui fait qu'il y a un moment, vous pouvez toujours essayer de doubler.
Mais
vous pouvez toujours essayer de doubler les investissements. Vous dire, Total pourrait investir deux fois plus dans l'éolien, etc. Les projets, ils n'existent pas. Les projets, ils ne sont pas là. Regardez le nombre de projets sur lesquels on revient en arrière. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a fait n'importe quoi, qu'on s'est lancé dans des trucs stupides qui rapportaient rien et un peu tête baissée. Donc je pense qu'on est aujourd'hui en train de se rendre compte de ça.
Alors, on va parler d'un autre projet d'avenir et on continuera d'avoir ce débat évidemment sur les dividendes, Audrey, dans la deuxième heure. Sans surprise, vous n'êtes pas mis d'accord avec Emmanuel Lechypre sur ce sujet. On aura quand même essayé. On va parler d'IA maintenant avec notre monsieur IA. L'un des trois, avec Anthony Morel et François Sorel. Les trois piliers de la verticale IA de BFM Business. On parle d'IA parce que, effectivement, vous en parliez déjà avec votre invité, on a une double actu, l'Europe qui a légiféré avec l'IA Act et Emmanuel Macron qui a reçu ce rapport pour booster l'IA en France. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça, Frédéric?
Alors déjà, tiens, première chose, juste pour faire un peu de teasing, demain soir dans Tech & Co, Anne Bouvreau et Philippe Aguillon seront dans Tech & Co.
Donc
les deux co-auteurs du rapport. Première chose, eh bien, c'est qu'on avance. Alors, ce qui est bien dans le rapport, donc encore une fois, c'est 15 personnalités issues de... Il y a des juristes, il y a des spécialistes de la recherche, Isabelle Ril, qui était là lors de l'inauguration de BFMIA. Donc il y a Philippe Aguillon, économiste, Anne Bouvreau qui a dirigé Morpho, qui est aujourd'hui directrice de l'ENS, voilà, qui a plein de distinctions. Leur rapport, il est assez franc du collier de dire voilà, la situation, elle est alarmante pour l'Europe, elle est alarmante pour la France. Voilà, on en est là aujourd'hui, donc il faut bouger. Mais il faut bouger, pas bouger, se projeter à 2030, il faut se projeter à fin 2024, début 2025. Donc ils ont mis 6 grandes lignes d'action, il y en a une autour de la formation, il faut former davantage d'ingénieurs dans la tech, mais non seulement, enfin dans la tech, dans l'IA générale, parce qu'on est sur l'IA générative.
Ouais,
non seulement les former, mais il faut aussi que nous tous on soit formés, que nous tous on devienne des salariés.
Alors,
augmentés.
C'est-à-dire le grand public.
Oui, le grand public, mais nous aussi, nous journalistes, qu'on apprenne à travailler avec de la bureautique augmentée, avec des outils de recherche documentaire, de rédaction documentaire. Donc, il faut que nous tous, on apprenne à travailler avec ces outils. Donc, ça, c'est la formation. Il y a la partie financement. Aujourd'hui, il faut multiplier par 3 les financements actuels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir trouver 5 milliards d'euros par an.
Mais justement,
sur l'IA générative.
Alors, justement, où est-ce qu'on trouve l'argent?
Eh bien, on fait venir.
Au moment où on en cherche.
Il y a des idées. Alors, le rapport est assez épais, mais il y a plein, comme il y a Philippe Aguillon, il a chiffré un peu tout ça.
Ouais.
Il y a des idées pour justement... Alors, cette histoire de fonds de pension qui traîne toujours avec tout cet argent.
Pour flécher l'épargne des Français.
Il y a
lui-même n'est pas dupe, hein. Non, mais vous
voir un peu comment...
lui-même dit que
rendre plus attrayant encore pour les fonds étrangers des investissements dans des entreprises françaises, donc ça c'est cette partie financement, et puis derrière il y a tout ce qu'il y a, donc il faut continuer bien entendu avec la promotion de la recherche, donc les crédits impôts recherche, ça il faut pas que ça s'arrête dans ce domaine. Dépenser plus aussi, parce que vous savez l'IA c'est trois domaines, c'est les algorithmes, c'est la partie données et c'est la puissance de calcul. Et là la puissance de calcul, on a un super calculateur qui s'appelle Jean Zay, il vous faut multiplier par 4 cette puissance, et puis on va avoir d'autres calculateurs exascale. Il y a d'autres choses encore. On va avoir un sommet de l'IA très important qui sera, moi je pense plutôt début 2025, mais il sera dans ces eaux-là. Il avait eu lieu à Londres l'année dernière. Et bien là, ce sera la France qui va être porteur de ce sommet. Donc autour de la gouvernance de l'IA, parce qu'évidemment, et là on en arrive à cette partie régulation.
Exactement.
Et donc l'AI Act, donc qui a été signé, voté aujourd'hui. Alors après,
ça a duré longtemps. Ouais.
2021, tout était prêt. 2023, c'est le 10 juin 2023. Le principe de l'AI Act est adopté. Et puis coup de tonnerre en novembre, la France, l'Allemagne, l'Italie disent non, nous on signe plus, l'IA générative est arrivée, il faut tout revoir. Donc ils ont tout revu, on est arrivé à un consensus mou, voilà, on montre un peu, c'est un IA Act qui montre comment il n'y a pas
c'est
de
un premier
pas
texte,
d'interdiction,
un premier pas,
voilà, c'est ce que pas d'interdiction, mais un contrôle plus étroit. Et puis surtout, surtout on a bien établi un peu les 4 principaux risques.
Pas d'interdiction, mais si, il y a une interdiction quand même de concurrence déloyale avec des amendes qui peuvent aller jusqu'à 10% du chiffre d'affaires pour les GAFAM.
Alors, c'est ce que ça veut dire, ça. Ouais. Les amendes sont là.
Mais attendez, donc vous n'y croyez pas? à ces nouvelles mesures.
Les amendes, ça les fait bouger un peu, mais vous voyez comment Apple se comporte lorsqu'on leur dit ils n'ont pas le droit, ils doivent ouvrir leur store. Ils ont trouvé déjà des contournements autour de ça, donc ils savent contourner un peu tout ça. Alors on aura beau leur mettre des amendes, alors ils en paieront une partie certainement, mais aujourd'hui ils savent adapter un peu tout ça.
Enfin, l'Union européenne commence à montrer les dents quand même.
Oui, alors ce qu'il faut savoir aussi, et ça faut pas oublier de le dire, hein, c'est qu'aux États-Unis il y a beaucoup de régulations aussi. Seulement on le voit moins parce que c'est par État. Et quand vous parlez avec les acteurs, mais même les acteurs français qui sont là-bas, ils vous disent que c'est pas toujours simple de travailler aux États-Unis parce que selon les États, on n'a pas les mêmes régulations. Nous, au moins, on a une régulation sur l'ensemble de l'Europe. On a au moins ça
Et puis, quand même, ce qu'on peut dire, Frédéric, sur le premier rapport d'Aguillon, c'est qu'il a le mérite de dédiaboliser un peu l'intelligence artificielle. Enfin, j'ai trouvé que ça prenait le contre-pied. Oui, absolument. Mais ça prend quand même le contre-pied de tous les discours anxiogènes sur le sujet, notamment sur l'emploi, parce qu'ils disent que finalement, l'effet d'éviction n'a pas lieu vraiment, et que c'est plutôt un effet de productivité qui se met en place.
Oui, productivité, alors il y a plusieurs, après il faut voir vraiment par métier, puis il faut vraiment réfléchir par tâche. Il y a des tâches qui vont complètement disparaître ou qui vont, si ce n'est disparaître, être enfouies un peu dans certains métiers. Vous avez tout un tas de métiers où, même nous, hein, on a des choses qui pourraient être automatisées, on ne va plus les faire, elles vont être enfouies dans tout ça. Après c'est comment on s'organise derrière et on apporte une autre valeur ajoutée, donc il y a tout ça qui va être réfléchi. Et puis non, surtout c'est la formation va être essentielle. Il faut vraiment, ça c'est un point crucial de former et d'aller dans les écoles et des écoles dès le plus jeune âge, de dire allez-y, travaillez avec ChatGPT, travaillez avec Mistral, travaillez avec tous ces outils, et vous verrez bien, déjà vous allez apprendre à travailler avec ça, vous allez en voir les atouts et les limites, et ça c'est ce qu'il faut voir.
Merci beaucoup.
Un rapport plutôt bon, et donc Philippe Aguillon et
Yann
Bourreau sera là demain soir
et puis on en parle évidemment dans Tech & Co. Absolument. Allez, il nous reste 5 minutes, on va prendre le temps aussi de parler d'un des autres événements du jour, c'était l'audition de Vincent Bolloré à l'Assemblée nationale. Frédéric Simotel, vous voyez qui se trame derrière vous, c'est Mathieu Pechberti. Il n'attend qu'une chose, c'est de prendre votre place. Voilà. Ben oui, quand même.
Les chaises musicales de BFM
Business. On n'allait pas louper l'audition de Vincent Bolloré à l'Assemblée nationale. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir.
On va prendre deux, trois minutes pour débriefer effectivement cette audition à l'Assemblée devant la commission d'enquête sur l'attribution des fréquences de la TNT. Audition évidemment très attendue.
Oui.
Il a défendu, droit dans ses bottes, ses choix éditoriaux, pour faire simple.
Alors simple, je ne sais pas, mais cette audition était très attendue, évidemment, parce qu'il y a eu des polémiques concernant les deux chaînes du groupe Canal+, à savoir C8, et les polémiques autour de Cyril Hanouna, et évidemment CNews, la polémique autour du renouvellement de la fréquence de CNews l'année prochaine, soumise à une nouvelle réglementation qui a été, en tout cas, mise en avant par le Conseil d'État, notamment sur les temps de parole, etc. Il a été lourdement questionné par les parlementaires sur... D'abord son interventionnisme, mais évidemment qu'il s'en sort très bien, évidemment qu'il dit qu'il ne fait rien, qu'il ne fait plus rien, qu'il a 72 ans, qu'il ne dirige plus rien au sein du groupe Canal+, alors même qu'il est encore membre du conseil de surveillance d'ailleurs, à proprement parler.
Oui.
Donc sur les questions d'intervention, évidemment il a répondu non, mais ça, qui aurait pu douter de l'inverse?
Alors sachant qu'il avait déjà répondu non en janvier 2022 quand il était passé devant une autre commission.
Exactement, et puis il était interrogé évidemment, alors il doit dire la vérité, rien que la vérité, il prête sous serment, mais il était aussi interrogé par des parlementaires, peut-être pas très aguerris à ce genre de personnages, qui sont quand même habitués à des débats un peu plus houleux et qui donc habilement arrivent en tout cas à détourner les interrogations qui leur sont soumises. Ensuite, il y a eu tout un volet sur le finalement plus politique et sur ce que beaucoup, en tout cas des opposants à Vincent Bolloré, lui reprochent, c'est-à-dire
CNews.
Son idéologie. Autour de CNews, parce que le cas Hanouna et les dérapages sur C8, dont il dit que l'ARCOM a
été déverrouillé.
Voilà, et donc il y a l'audition de Cyril Hanouna demain. Et puis sur l'aspect idéologique, donc évidemment, il a. C'était assez même parfois marrant, enfin souriant, on va dire, puisque. Il a dit évidemment qu'il n'imposait aucune idéologie à CNews, tout en se revendiquant d'une certaine idéologie judéo-chrétienne. Il a dit, sa première phrase à l'Assemblée, c'était, lorsqu'il s'est présenté, ça a été « Je suis né dans une famille catholique et bretonne ». Donc voilà, il n'a jamais souri, mais moi j'avais quand même un peu le sentiment que parfois dans son cerveau, c'était une manière de faire des sourires,
autour de
sourires coquins et malins à ses parlementaires, donc qui n'ont pas réussi à le coincer.
Sans surprise. Parce il aime bien ce genre.
Quand même les parlementaires ont fait notamment l'intervention de Jérôme Guedj qui l'ont quand même mis sous le nez toutes les sanctions de l'ARCOM ou toutes les condamnations qui ont lieu suite à des propos ou sur CNews ou sur C8. Voilà. Oui. Rappelons pour les aspects purement business, pardon, que il a largement défendu évidemment Cyril Hanouna qui sera auditionné demain puisque son émission génère quasiment la moitié des revenus de C8. Hein. Voilà.
Et juste un point sur
business,
la TNT.
Quand même, hein.
Juste un point sur la TNT parce que donc il a de nombreuses fréquences qui pourraient être appelées à être renouvelées ou pas. Et il dit regardez, il y a de l'audience. L'audience est au rendez-vous. Donc si jamais on nous supprime une fréquence de TNT, ça sera beaucoup plus politique que médiatique dans le sens business, quoi. Voilà.
Oui, absolument.
Donc, et là, il a été assez cash. Hein.
Ouais, et effectivement, vous l'écouterez, vous l'entendrez à 19h dans le journal. Il dit à un moment donné que si jamais une fréquence ou des fréquences, hein, C8 ou CNews en tout cas, lui était retirée, ça serait évidemment un vrai problème économique pour Canal+, ce qui est en partie faux, hein, parce que Canal+, c'est un groupe international qui a largement les reins pour absorber cela, mais il parle à un moment donné... ça enverrait un signal de défiance. Voilà, non, de défiance. Donc ouais. Là, c'est aussi une manière de. Vous savez qu'il a une relation assez compliquée avec Emmanuel Macron depuis plusieurs années. Ouais. Quand bien même.
Mais le signal a été envoyé quand même.
Elle se calme depuis quelques semaines. En tout cas, c'est ce qu'on entend beaucoup dire, que les relations, on va dire, s'apaisent entre le groupe Bolloré et l'Élysée.
Bon. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois. Merci beaucoup, Mathieu Pechberti, Emmanuel Lechy, Prêtevi Chevrillon. Votre. Invité demain soir, Edwige, pour
demain, on parlera de fast fashion avec Yann Petiot, qui est délégué général au commerce, et puis notamment de toutes les enseignes qui ferment.
Ouais. Donc, c'est demain, hein, la proposition.
Ouais, c'est demain, absolument, sur la fast fashion. C'est demain la proposition de loi. Et donc, il verra quelles sont les solutions. Est-ce que c'est les solutions qui sont positives ou pas au commerce français? Voilà.
Dans le commerce.
Demain soir.
Merci à tous les trois. Audrey, vous restez là, évidemment.
Mais bien sûr, vous aussi, Tom Sass. Voilà, on continue de décrypter l'actualité économique pour vous. À tout de suite.
À tout à l'heure.